Très rares il y a 10 ans, les produits sans gluten sont aujourd'hui partout.
Certains sportifs de haut niveau, et pas des moindres, avaient arrêté le gluten. Et dès lors qu'ils ont arrêté, ils sont arrivés au plus haut niveau de leur performance. Et j'ai nommé notre cher Djokovic.
Le gluten et la caséine du blé, ce sont des protéines qui se transforment par une alchimie dans le corps, comme de l'opium.
Impossible désormais de passer à côté. Depuis quelques années, dans les épiceries, dans les supermarchés, dans les restaurants, au menu, on fleurit les produits sans gluten, à tel point que l'on finit par se demander si le gluten est bon pour la santé, s'il s'agit d'un produit toxique, bref, s'il faut réduire la part de gluten dans notre alimentation. Alors sommes-nous devenus subitement tous allergiques au gluten? Quelle part d'allergie, d'intolérance, de sensibilité? Quels sont les troubles associés à ces différentes réactions au gluten? Bonjour Christophe Cellier.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue, chef du service hépato-gastro-entérologue et d'endoscopie digestive de l'hôpital européen Georges Pompidou. Est-ce que nous sommes donc subitement tous devenus allergiques au gluten?
Il y a probablement une part de gens qui sont intolérants. Alors intolérance et allergie, c'est complètement différent. C'est deux mécanismes totalement opposés, je dirais presque.
Expliquez-nous justement la différence qu'il y a entre l'intolérance, l'allergie... Peut-être la sensibilité même. Qu'est-ce que c'est que cette différence?
Alors, l'allergie, enfin c'est un peu ce qu'on connaît tous, c'est qu'on est exposé à un produit, ça peut être une allergie, on a une réaction immédiate et on peut être allergique alors au blé, à d'autres aliments, au kiwi, enfin etc. etc. L'intolérance au gluten, c'est une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque et qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on développe des anticorps à cause du gluten parce qu'on est prédisposé à ça, qui détruit la paroi interne de notre intestin grêle, notre petit intestin, et on absorbe mal les nutriments, et ça entraîne une inflammation. Sur le long terme, on peut se déminéraliser, on peut avoir des manques de fer, des carences, de la diarrhée, des maux de ventre, voire dans certains cas des cancers, ce qu'on appelle des lymphomes, et ça, il faut absolument le diagnostiquer. Et puis, il y a une troisième entité qui est plus floue, qui est plus médiatisée actuellement, qui est l'hypersensibilité, où là, on ne supporte pas la consommation du gluten, et pourtant, ça déclenche aucune toxicité dans l'intestin, si ce n'est qu'on est fatigué ou qu'on a mal au ventre et qu'on ne le supporte pas, et qu'on supprime le gluten, on va un peu mieux.
Cette intolérance au gluten, la maladie cœliaque aujourd'hui, quelle est sa prévalence dans la population?
De l'ordre de 0,5 à 1% de la population, ce qui est déjà
assez important.
Énorme.
Oui, c'est
énorme.
C'est très très
et seulement, disons, 10 à 20% seraient diagnostiqués, parce que parfois, c'est une maladie qui est très sournoise, qui se manifeste parfois par rien du tout, au niveau clinique,
qui est asymptomatique.
Niveau symptômes, c'est-à-dire on a juste un manque de fer, on est juste fatigué. Parfois, elle se manifeste juste par des petits troubles mineurs, des maux de ventre, des alternances de diarrhée, de constipation, une déminéralisation osseuse. Parfois, elle se manifeste, et là, généralement, on fait le diagnostic par des troubles plus importants, de la diarrhée, une perte de poids, et là, on arrive très vite au diagnostic. Il suffit de faire une prise de sang, et on pourra le confirmer par une fibroscopie, c'est-à-dire qu'on met un petit tuyau dans la bouche et on va jusque dans le début de l'intestin grêle, le petit intestin, on fait un prélèvement qui va montrer que notre peau interne, ce qu'on appelle les villosités de l'intestin, sont aplaties.
Et cœliaque, elle se déclare quand? Elle peut se déclarer chez l'enfant, chez l'adulte, à l'adolescence?
Avant, on pensait que c'était que les enfants, alors qu'en fait, maintenant, ça se déclare de plus en plus à l'âge adulte, hein, puisque le pic, c'est entre 20 et 40 ans. Mais 20% se déclarent, enfin, ou sont diagnostiqués après l'âge de 60 ans. Pourquoi on le découvre maintenant? La maladie est plus médiatisée. On a d'abord des anticorps qui sont beaucoup plus fiables, hein, les anticorps anti-transglutaminase, donc ça a peut-être contribué. On connaît mieux les contours. Avant, on pensait que la maladie, c'était que les enfants qui avaient de la diarrhée, qui perdaient du poids, qui étaient malnutris, alors que c'est plus du tout le cas. Donc on est en train de découvrir un nouveau profil de cette maladie. Et puis, donc les médecins sont maintenant de plus en plus informés de ces nouveaux profils. Et puis les patients aussi. À côté de ça, il y a une sorte de mode sur le régime sans gluten. Alors il y a plusieurs explications. C'est peut-être que effectivement, ça peut être difficile à digérer le gluten en soi. Le gluten en soi, ça sert à rien. Ça sert
on peut peut-être rappeler ce que c'est que le gluten en quelques mots.
Le gluten, en fait, c'est des protéines qui sont dégradées quand on fabrique par exemple le pain et qui le rendent, ces protéines le rendent plus malléable, aérien, plus élastique.
C'est une protéine du blé. Hein. On n'en trouve que dans le blé?
Dans le blé, dans le seigle et dans l'orge. Et ça permet de rendre la pâte plus malléable, plus travaillable. C'est pour ça qu'on l'utilise dans l'industrie agroalimentaire, dans le pain sans gluten est plus moelleux que le pain avec gluten est plus moelleux que le pain sans gluten. Mais en soi, ça a pas de qualité nutritive, donc on peut ne pas en manger. C'est pas un problème. Et c'est peut-être dans certains cas difficile à digérer. Puis il y a eu toute une médiatisation sur des effets bénéfiques du régime sans gluten, comme chez les sportifs.
Est-ce que c'est réel?
Toutes les études actuelles ayant étudié le régime sans gluten chez les sportifs n'ont pas montré de bénéfices clairs, enfin scientifiquement démontrés, du régime sans gluten, ni dans dans d'autres maladies. Hein. Ça a été aussi évoqué dans d'autres maladies, maladies auto-immunes, maladies psychologiques. Il n'y a pas de bénéfice identifié scientifiquement à faire un régime sans gluten chez des gens qui ne sont pas atteints de maladie cœliaque.
Est-ce qu'il peut y avoir justement à l'inverse des effets pervers ou des effets indésirables d'un régime sans gluten quand on n'est ni allergique, ni intolérant, ni même sensible?
Alors, ce qu'on a observé chez les patients qui se mettaient entre guillemets spontanément au régime sans gluten, c'est que parfois, comme ça améliorait pas tous leurs troubles, ils passaient à un autre régime, régime sans gluten, régime sans lactose, puis d'autres restrictions, et ça peut aboutir dans certains cas ce qu'on appelle l'orthorexie alimentaire, c'est-à-dire que les gens s'isolent à la fois sur le plan alimentaire et social et développent des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est pas nécessaire de suivre à des régimes ultra restrictifs, sauf si, bien sûr, on en a une indication, comme pour le régime sans gluten, qui est la maladie cœliaque.
Quels seraient aujourd'hui les indices d'une sensibilité au gluten? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de diagnostiquer, moi, que je suis tout de même sensible, c'est-à-dire que c'est pas très bon quand j'en mange?
D'abord, il y a le ressenti. C'est souvent les gens qui s'auto-diagnostiquent comme étant hypersensibles au gluten sont des gens qui souffrent du ventre ou qui ont des fatigues, des troubles articulaires et qui suppriment le gluten. Et quand ils suppriment le gluten, ils vont mieux. Et quand ils réintroduisent le gluten, ils vont mieux. Mais après, il est très important, avant de commencer un régime sans gluten sur le long terme, d'éliminer une authentique maladie cœliaque, c'est-à-dire c'est de faire au moins une prise de sang avant de commencer le régime sans gluten, pour être sûr qu'on est bien dans le cadre de l'hypersensibilité simple et pas la maladie cœliaque.
Le gluten, ça peut devenir potentiellement toxique? C'est important pour l'organisme? Il faut en avoir dans une alimentation équilibrée tous les jours ou c'est pas nécessaire?
Mais le gluten en soi n'est pas du tout indispensable à l'alimentation et ça n'a aucune valeur nutritive.
Est-ce que il y a un terreau allergique qui serait supérieur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10, 20, 30, 50 ans?
Alors, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le fait d'être devenu de plus en plus propre, entre guillemets, dès l'enfance, hygiénique dans les aliments, ça a majoré le nombre de maladies auto-immunes. Ce qu'on appelle le syndrome du frigidaire, c'est-à-dire le fait d'avoir une consommation très aseptisée très tôt dans la vie, fait que l'intestin, par exemple, n'est plus habitué à être en contact avec des bactéries.
Ça appauvrit le microbiote intestinal?
Ça peut modifier le microbiote intestinal, ça, on ne sait pas précisément, mais en tout cas, ça a probablement favorisé l'émergence de maladies auto-immunes, dont la maladie cœliaque, mais pas que.
Mais sur le développement des allergies alimentaires en règle générale, auxquelles on est aujourd'hui nettement plus sensible qu'avant, il y a effectivement une prévalence, vous constatez une prévalence des allergies, des intolérances alimentaires qui n'étaient pas prises en compte de la même façon il y a quelques années?
Alors il y a une augmentation statistique de, par exemple, la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten, ça c'est sûr, hein, au fil des années, il y a une grosse augmentation de cette maladie. Et puis à côté de ça, il y a une sorte de faux diagnostic d'intolérance alimentaire avec des tests qui sont maintenant promus un petit peu sous le manteau ou qui sont non remboursés, non scientifiques, avec des tests IgG qui coûtent des fortunes, qui n'ont aucun intérêt et qui vous diagnostiquent intolérant alimentaire à un peu tout. Il suffit de faire ce test et vous le faites vous-même, vous allez être intolérant probablement à quelque chose, et puis vous le refaites le lendemain, vous allez être intolérant à autre chose et ces tests n'ont aucune valeur.
Un dernier mot, Christophe Cellier, à l'adresse des parents, comment est-ce qu'on peut surveiller l'apparition d'une forme d'intolérance au gluten chez un enfant en bas âge? Est-ce qu'il faut être prudent, attentif à certains signes?
Chez l'enfant, pour les parents, c'est l'intolérance au gluten, ce diagnostic le plus souvent soit parce qu'on a un trouble de la croissance, un retard de la courbe de croissance, soit des enfants qui ont des maux de ventre réguliers, de la diarrhée, une perte de poids. Et dans ce cas-là, il faut en parler à son médecin, à son pédiatre. Et le test est assez simple, hein, c'est de faire une petite prise de sang qui va régler le diagnostic. Mais il faut faire la bonne prise de sang.
Merci beaucoup Christophe Cellier. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue, chef du service hépato-gastro-entérologie et endoscopie digestive à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.